Eh bien, ce soir, nous essaierons un peu de faire comme un chemin plus méditatif ou théologique sur le thème de notre séminaire, à partir du corps. Je l'ai intitulé « Le corps dans le corps du Christ » et je partirai avec quelques préalables sur les paroles « Ceci est mon corps ». Puis, je n'ai pas fait de feuille de route parce que j'irai plus lentement que d'habitude et que je divise mon exposé en quatre points. Le corps est plus que le corps symbole par excellence. Le corps est communion et le corps est un lieu de vie qui sera un peu comme la reprise de ce que nous avons essayé de voir sous divers angles, à la fois juridiques, philosophiques, scripturaires. Donc en guise d'introduction avant les quatre points, je voudrais donc énoncer l'un ou l'autre paradoxe qui accompagne l'énoncé de ces paroles de Jésus, « Ceci est mon corps », et de ce qu'on appelle le récit de l'institution, qui nous est rapporté avec précision dans les synoptiques. Je donne les références. Matthieu 26 à 29, Marc 14, 22 à 25 et Luc 22, 14 à 20. Bien sûr, les paroles de Jésus à la scène, à travers aussi la connaissance que nous avons à l'Eucharistie, ont une densité de présence et de réflexion pour lui-même, pour ses apôtres et pour les générations à venir. Nous savons que dans l'évangile de Jean, ces paroles de l'institution, « Ceci est mon corps », sont absentes et que le récit de l'institution, en quelque sorte, est remplacé, le terme est pauvre, mais il est aussi symbolisé magnifiquement par le lavement des pieds en Jean 13, 1 à 20. Et donc l'événement fondateur du salut nous est offert sous deux modalités qui touchent le corps du Christ qui parle, le corps des apôtres qui écoutent, et peut-être ou certainement nous qui, à la suite de la tradition, entendons ces paroles dans l'économie sacramentelle. Sous deux modalités, paroles qui font ce qu'elles disent, en termes linguistiques on parle de langage performatif, paroles qui font ce qu'elles disent, ceci est mon corps, livré pour vous, geste qui dit ce qu'il fait et ce qu'il signifie ultimement. Dans le lavement des pieds, l'amour se dit dans un acte libre et conscient pour autrui. Voilà en guise d'introduction, la première indication, le premier paradoxe, ne fût-ce qu'à travers cette différence entre les évangélistes. Le deuxième paradoxe concerne la personne même du Christ, qui dit « Ceci est mon corps à moi, celui qui est pour vous. » En grec, donc « to soma mou », le corps à moi, « tu hyper humon » pour vous, « didomenon ». Didomenon, didomai, du verbe donner, donc donner pour vous. Donc dans Luc particulièrement, verset 19, voilà. Ce langage, ce mot grec met en évidence le fait que Jésus parle du corps qui est proprement le sien. Cette insistance sur le possessif. Ce mémorial est propre à la personne du Christ en son corps. Le mystère de l'incarnation, il s'est uni à notre humanité, affirmation conciliaire qui prend son actualité à chaque moment de l'histoire de l'humanité, le mystère de l'incarnation nous est rappelé dans les évangiles, dans cet instant dramatique où le Christ se donne et manifeste clairement la visée consciente et libre de son don. Il se donne en son corps pour nous. Et plus tard, il précisera, selon Marc ou Matthieu, pour la multitude. Le pain de la Pâque, le pain azim, est donc saturé de sa présence active. Mais cette présence, disons-le tout de suite, n'est pas limitée. Elle est extase hors de son corps pour définir l'amplitude de son corps. Autrement dit, il a besoin de sortir de lui-même en ces espèces-là, données pour nous, pour que lui-même, dans l'histoire, et nous-mêmes, nous comprenions quelle est l'amplitude du corps du Christ. Ce n'est pas simplement un bout de pain, même s'il est important dans le rituel de la Pâque juive. En effet, quand il prononce les paroles « Ceci est mon corps », son regard se pose sur ce pain rituel qu'il partage avec ses disciples, à ses disciples, mais son regard se pose également sur ceux qui sont rassemblés autour de lui, avec Judas qui mange au même plat. Ce regard dit aussi ce qu'est le corps rassemblé de ses disciples. Le regard montre les espèces ou le pain rituel, mais il montre aussi le corps que forme ou qu'est en train de se former ou que se formera le corps des disciples, le corps rassemblé. Je le redis d'une autre manière, son regard est posé sur les espèces du pain et du vin et non pas sur le vide. Donc tout l'ordre du créé est dès lors transformé par les paroles prononcées par l'homme-Dieu qui regarde. Le temps et l'espace sont intégrés également dans le ceci, tout le temps, tout l'espace, tous les corps, tout le créé, et sont transformés par la parole consciente et libre du Christ. Ainsi, le passé deviendra matière d'un mémorial, c'est ce que nous faisons régulièrement, l'avenir, matière d'une parousie. Donc ces matières-là ne sont pas des concepts, ce n'est pas du pur matériel, des grains de blé ou un type de vin particulier seulement, ce n'est certainement pas du virtuel, c'est un corps personnel. Notons également dans ce deuxième paradoxe ce contraste. L'affirmation de Jésus est énoncée par Jésus lui-même qui parle de ceci est mon corps, tout en étant lui-même en son corps personnel et historique. Ça paraît évident quand je le dis, moi j'ai mis beaucoup de temps à saisir cette distance-là. L'homme qui parle, mais l'homme Dieu, Jésus, met une distance entre lui-même en son propre corps et l'affirmation qu'il énonce. C'est comme moi pour l'instant qui suis en train de parler, je ne peux pas parler sans mon corps, si je puis dire ainsi. Mais donc tout langage et toute assertion, mais toute assertion aussi vigoureuse qu'on appelle ainsi testamentaire, nouvelle alliance, eh bien passe par une distance énoncée dans la parole entre la personne même du Christ en son corps et le corps qu'il désigne et qui est le même que lui. Cette distance entre lui et ce qu'il dit être lui dans l'histoire n'est de plus pas réductible à ce que nous en voyons et ce que nous en disons maintenant, ce que j'énonce maintenant ne peut pas réduire le mystère tel qu'il a été vécu il y a plus de 2000 ans, tel qu'il est énoncé par le Christ lui-même dans la scène. Autrement dit, cette présence réelle défie nos perceptions sensibles de la présence. Elle passe par nos sens, mais les suscite vers d'autres sens, puisque cette présence est au moins double, si pas triple, nous verrons tout de suite. Cette présence est multiple et reprend tout le créé, les créatures, la terre et le ciel. Tout cela est repris, tout en disant l'unique personne du Christ dans l'histoire sainte. Donc l'essence liée au corps du Christ et à notre propre corps ouvre notre intelligence au réel, souligne nos limites et en même temps ouvre un espace et un temps infini. L'essence corporelle renvoie toujours dans l'unité de la personne humaine à l'acte de foi, au sens de la foi, au sens au pluriel de la foi, sens spirituel, qui voit, qui touche, qui entend une présence divine dans l'histoire. C'est peut-être une manière un peu déconcertante de m'exprimer pour l'instant. Je m'inspire pas mal d'un auteur qu'on a un peu oublié ces temps-ci, d'un théologien qui s'appelle Duruel, François-Xavier Duruel, et donc d'un livre qu'il a publié en 1971, donc c'est un peu après le concile, mais ça date déjà. Donc deuxième paradoxe, c'est la personne même du Christ qui dit « Ceci est mon corps, à moi celui qui est pour vous » et dans le « Ceci est mon corps », il l'énonce en étant en son propre corps personnel et historique. Et en même temps, il reprend l'ensemble de l'espace-temps, donc le monde créé, dans l'énonciation et la désignation du « Ceci est mon corps ». Troisième paradoxe, avant de les expliciter dans mon propre vocabulaire, je crois. Le troisième paradoxe concerne les paroles mêmes du Christ qui dit ceci. D'abord, le Christ ne dit pas « Je suis dans le pain ». C'est malheureusement une parole qu'on utilise beaucoup en catéchèse pour expliquer ça aux petits-enfants qui n'en ont pas besoin, justement. On leur énonce une erreur théologique fondamentale, alors que peut-être à 14-15 ans, on pourrait discuter avec eux et énoncer des langages différents, mais là, ils sont de plein pied, ou ils pourraient être de plein pied avec l'énonciation des paroles même du Christ. Mais quand on dit « le Christ est dans le pain », ils vont le chercher. Un peu bêtement, ils disent « mais comment c'est possible ?» c'est le même Jésus que sur la croix de ma chambre, et il est dans le pain, qu'est-ce qui se passe? Il est dans mon cœur aussi, qu'est-ce qui se passe? Spatialement, on fait une erreur, et théologiquement aussi. Le Christ ne dit pas « ce pain est mon corps ». Ceci est plus subtil, vient d'une analyse exégétique de Xavier Léon Desfours. Il ne dit pas « ce pain est mon corps », mais « ceci est mon corps ». Ce démonstratif-là ouvre une fenêtre sur l'infini. Qu'est-ce que ce « ceci » qui est le corps? Et surtout pas « mon corps », comme dit le Christ. Le « ceci », ce n'est pas l'objet matériel, le pain et le vin, qui seuls sont le corps du Christ. Notons la richesse aussi symbolique à la fois de la dualité des espèces, c'est-à-dire du pain et du vin, particulièrement l'importance de ce qui devient le sang du Seigneur uni intimement à son corps, siège le sang de la vie humaine. Quand on connaît un peu l'anthropologie juive, le sang est le siège de la vie. Si pendant des siècles, on empêche le peuple chrétien d'atteindre ou de goûter la valeur réelle du sang du Christ, on ne peut pas s'empêcher de croire qu'il aura beaucoup de peine à saisir l'ensemble du mystère de la révélation. Je parle en belge particulièrement. Je parle comme belge, parce que vous savez que dans la culture belge, à Bruges, il y a une procession du Saint-Sang qui n'est pas rien pour manifester la présence réelle du Christ dans l'histoire. Donc, l'importance de ce qui devient le sang du Christ, uni intimement à son corps, siège de la vie humaine. Sont-ils pas des apparences, des espèces qui demeurent alors que la substance est autre? Il est sous l'apparence du pain et du vin, mais c'est la divinité qui est présente. La personne divine ne se réduit pas à ce pain et à ce vin, même si elle ne se réduit pas non plus au corps historique du Christ, puisqu'il sera glorifié, même s'il s'est rendu présent historiquement à notre humanité par son corps et qu'il est présent à l'humanité par son corps. Les espèces créées disent ce qu'est le corps par cette substance symbolique qu'elles sont et représentent et par le fait qu'elles renvoient à la divinité même du Christ. Donc on voit bien, je ne vais pas faire tout un cours de théologie eucharistique, mais je trouve que ces quelques éléments qui font l'essentiel de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne et de notre mystère eucharistique sont décisifs pour comprendre ce qu'est le corps du Christ et comprendre notre propre corps et le corps de ceux que nous voyons apparaître dans le sein maternel, le corps de ceux que nous voyons presque disparaître ou aller, comme nous l'avons vu dans la séance de jeudi dernier, aller vers l'éternité ou passer d'un monde à un autre, alors que c'est le même monde de liberté qui s'énonce. Je crois donc que le mystère du corps du Christ, corps et sang du Christ, et le mystère eucharistique sont pour nous des lieux de réflexion, et je n'oserais pas tout dire aujourd'hui, je ne pourrais pas, je suis incapable. Mais je crois que dans un séminaire comme le nôtre, il est important d'y revenir et de voir comment le Christ historique et le Christ qui s'est uni, on en a parlé par le mystère de l'incarnation à toute humanité, et le Christ qui prononce ces paroles, ceci est mon corps pour vous, mon corps à moi, et comment il définit le corps dans l'histoire. Mais je vais reprendre cela paisiblement sous les quatre thématique suivante. Le corps est plus que le corps. Bon, nous l'avons vu souvent. Nous avons rencontré cette évidence tout au long de notre parcours, de notre séminaire. Il y avait comme, d'un point de vue des sciences abordées, que ce soit l'écriture, le droit, la psychologie, la théologie, il y avait toujours un moment donné où on essayait de redire que le corps dont on parle renvoie à plus grand que ce visible du corps. Voilà. À l'origine de la vie, comme à la fin, pour le petit comme pour l'adulte, pour la personne âgée, handicapée ou malade, l'être humain ne se réduit pas aux apparences de son corps. C'est d'ailleurs une phrase qui revient textuellement dans les deux documents importants de la bioéthique du magistère, Donum Vitae et Dignitas Personae. Tout être vivant en son corps est en son corps, mais nous savons, ça c'est la biologie qui nous le dit, mais nous savons combien la vie donne à ce corps aussi des apparences différentes selon la croissance même, entre un petit embryon et un jeune homme ou une jeune fille de 23 ans, 24 ans, prêt à se marier, etc. C'est différent. Donc selon la croissance même, selon la modalité sexuée du corps, selon les événements auxquels ce corps humain participe, ne fût-ce qu'à travers certains accidents ou certaines situations de pauvreté et de misère. dans d'autres pays et cultures. Nous disons aussi et nous voyons que les expressions du corps personnel sont diverses dans le temps et dans l'espace. Les gestes et les paroles disent cette richesse de l'être humain qui communique avec autrui, qui établit une communion des personnes à travers l'amitié et l'amour. Et rien qu'entre nous, en sous-groupe, rien qu'à travers les cultures que nous représentons, eh bien nous savons que nous parlons et nous nous exprimons en amitié de manière différente. Et par ailleurs, toujours en notre corps, rien ne se fait, rien ne se dit en dehors du corps qui est mien. Mais en même temps, le sujet dit toujours un surcroît par le corps qu'il est et qu'il devient. Je reprends cette phrase parce qu'elle est importante. Nous en faisons, je vais en faire un petit exemple, nous faisons l'expérience tout le temps. Quand on parle, on parle souvent en sociologie de l'émetteur et du récepteur. On peut bien dire les mêmes paroles qu'un autre, et pourtant celui qui reçoit va percevoir autre chose que ce que nous avons voulu dire, ou bien devant le même auditoire, celui qui parle va être compris d'une manière très différente. Pourquoi ? Pas seulement parce que nous sommes différents entre l'émetteur et le récepteur, mais parce qu'il y a une vérité métaphysique plus profonde de la personne humaine que je réénonce. Le sujet, en parlant, dit toujours un surcroît par le corps qu'il est et qu'il devient. Un surcroît, ça veut dire une gratuité dont il n'est pas d'ailleurs toujours conscient. C'est un peu la richesse aussi de l'éthologie pour la science des animaux, mais aussi, on dirait pour nous, du langage du corps, que de manifester que plus ou en même temps ou accompagnant la parole, eh bien, le corps dit quelque chose de plus que celui qui parle, ne fût-ce que par les gestes qu'il utilise. La culture italienne est quand même beaucoup plus expressive que la culture norvégienne dans ce domaine-là. Elle dit toujours quelque chose de plus à travers les réactions des doigts sur le visage ou bien des interprétations des bras. Bon, voilà. Je reprends pour dire, le sujet dit toujours un surcroît par le corps qu'il est et qu'il devient. Cette diversité des personnes est un trésor qui appartient à l'humanité depuis qu'elle est sur la terre. Ce trésor apparaît dans le caractère unique de chaque personne. La plupart des philosophes ont insisté sur cette unicité de l'être humain, du sujet. Emmanuel Lévinas ne suggérait-il pas ce point en éthique en parlant du visage d'autrui, le visage d'autrui qui m'interpelle comme départ aussi de l'éthique. Ainsi, dans toute relation avec autrui, le corps est un carrefour éthique incontournable. Par lui, nous sommes appelés au respect, à l'amour de ce qui n'est pas nous, qui nous dépasse, qui est à interpréter et qui pourtant est d'égale dignité. Donc, diversité des personnes comme trésor. Par contraste, l'uniformité des corps est une illusion tant au point de vue biologique qu'anthropologique. Elle serait appauvrissement car tout être humain est unique à ses yeux d'abord, mais aux yeux de Dieu et aux yeux d'autrui. Et la diversité des corps en est une attestation parmi d'autres, depuis le code génétique jusqu'aux variations phénotypiques du corps dans le temps d'une vie. Chacun de nous est connu de Dieu par son nom. Exode 33, verset 12, ou bien Jean 10, verset 3. Personne ne vient à l'existence sans avoir été voulu directement par Dieu. Gaudium et Spes, numéro 24. L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Cette unicité que nous reconnaissons à autrui et qui fonde aussi notre relation à lui est enraciné dans la relation immédiate de chaque être humain avec son Créateur, reconnu ou pas. C'est l'envers de cette affirmation de la Genèse que tout homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucun être humain ne peut être substitué par un autre, c'est l'illusion ou le fantasme du clone, dont nous n'avons pas beaucoup parlé parce qu'il est moins d'actualité maintenant, mais qui est profondément inscrit dans l'histoire de la bioéthique des 20 dernières années. De fait, un embryon ne remplace pas un autre, pour être concret. Un époux n'est pas interchangeable. Un ami n'est pas un autre. La preuve, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Cet absolu de chaque personne se dit toujours, cependant, dans les limites, le relatif, si je joue avec absolu, dans le relatif qu'est son corps. L'absolu de chaque personne se dit dans le relatif de son corps. Bien entendu, nous pouvons penser le lien unifié entre l'âme et le corps. Ça a été fait, entre autres, dans l'examen des critères de mort avec Paul. La personne est cette unité dans laquelle se distinguent des réalités distinctes, qui se manifestent dans l'histoire. Le corps est toujours plus que le corps. Cela signifie qu'il est plus que ce que nos yeux de chair peuvent en percevoir, ou que ce que notre intelligence peut concevoir. Il est plus que ce que les observations de sciences différentes nous en livrent, même si nous sommes heureux, normalement, de contempler un embryon à travers l'échographie. Mais c'est toujours plus que ce que la science nous dit. Personne n'est sans son corps, mais personne ne se réduit au corps propre. Il y a donc un mystère du corps, un surcroît de sens et de présence. J'utilise le mot mystère, j'utilise un vocabulaire peut-être plus existentialiste, comme celui de Gabriel Marcel. Le corps n'est pas un problème, c'est un mystère. C'est que je le connais très bien, mais en même temps, je ne parviens pas à embrasser, ma connaissance ne parvient pas à embrasser tout le surcroît de sens qu'il possède, le corps pour moi ou le corps d'autrui. Chacun d'entre nous, nous pouvons dire avec vérité « ceci est mon corps ». En vérifiant le contenu de cette affirmation dans l'espace et dans le temps, également pour l'éternité, et en même temps en avouant que cela nous dépasse, et que nous disons vrai en disant « ceci est mon corps », et en même temps, je ne sais pas tout ce que je dis par ces paroles. Dans l'histoire de certains malades, pourtant, pour l'embryon comme pour le mourant, l'expression visible de cette affirmation « ceci est mon corps » n'est pas, ou n'est pas toujours, ou plus toujours possible. L'embryon ne parle pas, il ne peut pas dire, comme chacun de nous, « ceci est mon corps ». Le comateux ne se dit plus dans son langage articulé. Nous avons vu alors ce que cela signifiait comme appel éthique pour les membres de la famille ou pour les soignants. Mais cette prise de parole qui met un peu à distance du corps dit également pour nous que ce corps que nous identifions, que nous montrons, ce corps dont nous souffrons, que nous soignons par exemple, est toujours plus que le corps visible. Donc ces situations de faiblesse, que je veux dire comme l'embryon, le comateux, nous disent ou nous confirment la réalité de notre propre mystère. C'est que nous sommes toujours plus que ce que nous voyons ou nous disons de notre propre corps. Plus que ce que le corps visible dit de lui-même. Il est le corps intimement lié à la présence d'un être unique, mis à l'existence pour l'éternité, et qui cherche un accomplissement, une plénitude de vie en ce monde déjà et dans l'éternité. J'avais développé ces points en partie dans l'accompagnement spirituel du mourant, dans cette quête d'accomplir, de conclure quelque chose ici sur la terre. Il y a quelque chose qui appartient à l'unicité de notre vie, de notre personne. Et aussi l'affirmation, que ce soit reconnu ou pas, l'affirmation que notre vie ne se limite pas au temps chronologique d'une vie humaine, qu'elle est toujours un appel ou une participation à un temps qui est sauvé, c'est-à-dire à l'éternité. Voilà le premier, la première manière de paraphraser, d'expliciter cette réalité. Voilà. Le corps est plus que le corps. Certains, d'ailleurs, dans leur prise de parole ce matin, ont déjà bellement exprimé cela aussi. Le corps est le symbole par excellence. Nous avons également expérimenté et réfléchit sur le point suivant, que le corps humain non seulement renvoie au-delà et en deçà des apparences qu'il revêt, mais qu'il est incontournable pour dire à l'homme ce qu'il est et le sens de son existence. Dire « ceci est mon corps » n'est pas seulement renvoyer à ce qui dépasse les apparences et le visible, tout en étant très concret, comme Jésus l'a fait pour lui, pour le corps des disciples, etc. Mais dire ceci est mon corps, c'est également révéler une part du mystère qui n'est pas appréhendée d'emblée ou par des yeux marqués par telle ou telle méthode d'observation. Donc ceci est mon corps, c'est aussi une révélation. Cette affirmation face au Christ est de l'ordre de la foi face à tout autre être humain aussi, anthropologiquement. Dire ceci est mon corps, c'est une lumière sur ce qu'est le mystère de la personne. Quand j'ai un peu bataillé ou développé le thème du corps embryonnaire pour l'embryon, c'était une manière, avec le texte qui nous est offert par l'Église, d'affirmer une lumière nouvelle, comme peut-être une révélation sur le statut de l'embryon. Et nous, dans la vie de tous les jours, dire « ceci est mon corps », c'est dire « j'existe face à un « tu ». Quand on est malade et qu'on a mal, ou bien qu'une grosse pierre vienne de tomber sur l'orteil, on dit « hey, c'est mon corps ». Donc, on saisit la distinction avec l'objet dur et la personne qui a été touchée, que ce soit aussi dans l'ordre des tortures ou des souffrances. Mais dire « je » face à un « tu » ou face à plusieurs « tu », c'est toujours une expression aussi de confiance envers le créé qui m'entoure et les autres qui me rencontrent. Quand on est fort malade et qu'on dit et qu'on crie sa souffrance, on n'affirme pas la souffrance du corps, la réalité personnelle de son existence. On fait appel, comme on l'a décrit jeudi dernier, on fait appel aux autres pour qu'ils prennent et reconnaissent, prennent soin de nous et qu'ils reconnaissent notre existence jusqu'au bout et qu'ils la soignent jusqu'au bout sans nécessairement la supprimer. Le corps humain concentre en lui-même un trésor de signification aussi parfois éparse dans le cosmos. Ça, si on était plus écologique, on serait tout de suite d'accord. L'humain, je vais dialoguer avec Étienne Lhomme sur ce point, l'humain n'efface ni le lien avec la nature, le monde animal, ni les faiblesses, ni les richesses de sens de celles-ci. Le corps humain concentre un univers de signification, car il dit le sens de ce monde créé, dont l'homme est l'intendant ou le lieutenant de Dieu, comme fait Genèse 2, 15. J'explicite encore, il concentre l'univers de signification, car le corps humain offre aux autres corps de trouver leur place également face au corps humain, corps personnel. Les animaux domestiques et même les animaux sauvages acquièrent leur sens grâce au respect que l'homme leurs confrères ou dans une réserve naturelle ou bien simplement le chien qui accompagne l'homme bien portant ou l'aveugle avec qui il établit une connivence. Donc le corps humain ramasse aussi des dimensions du cosmos et de la nature plus large. On dit cela, et il faut bien le comprendre un peu grossièrement, quand on dit que l'homme est le roi de la création, c'est-à-dire qu'il rassemble le sens. Ça ne veut pas dire que les arbres n'ont pas de sens, ni que les rochers, ni que l'eau, les quatre éléments, qui sont d'ailleurs symboliquement les signes de l'Esprit-Saint dans la parole de Dieu, mais que ces éléments n'ont pas de sens. Ils acquièrent un sens à travers l'être d'esprit qui, en son corps, récapitule tous ces sens-là. Les textes de la Genèse sont assez explicites pour dire la place privilégiée de l'homme dans la création. Si l'homme est le sommet de la création, ce n'est pas seulement au niveau de sa différence de nature, ni de la perfection de son corps. La preuve, c'est que le petit de l'homme, il doit être éduqué pendant de longues années, tandis que le petit faon ou le petit éléphanteau, même s'il est un peu lourdeau au début, eh bien, il commence à marcher et à s'alimenter très très vite. Son instinct est formidable. Donc l'homme n'est pas de sa différence par la perfection de son corps, mais aussi parce que grâce à lui, les autres créatures sous la terre trouvent leur place et que l'on peut, comme saint François d'Assise, magnifier la création et parler aux poissons, alors que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler un poisson, je suppose. Ou en tout cas, faire amitié avec le loup et le sauver, établir un contrat social avec lui pour qu'il ne mange plus les habitants de Gubbio. Voilà. Donc, cette affirmation est vrai du point de vue ontologique, mais surtout dans l'ordre de l'histoire du salut. C'est-à-dire que grâce à l'homme, toutes les autres créatures sur Terre trouvent leur place, et donc aussi les autres créatures humaines. Dans le rapport des personnes, l'homme est solidaire, il est social, il n'est jamais solitaire. La solitude originelle, dont nous avons parlé avec Nathanaël pour la structure responsable du corps, est toujours une solitude d'attente et de communion. Le corps personnel dit toujours qu'il vient d'ailleurs. C'est tout l'enjeu de la filiation, des débats juridiques qui nous ont été exposés. Le corps personnel dit toujours qu'il vient d'ailleurs et qu'il vise une communion de type nuptial, la conjugalité. Donc dans ses limites, le corps personnel sexué dit la richesse de la radicale différence sexuelle. Il témoigne de sa potentielle fécondité aussi, c'est la parenté. C'est dans son corps que tout être humain est donc appelé à consentir à ce qu'il est. Ce corps qui occupe toujours un espace et un temps manifeste la limite de chaque être humain et en même temps suggère son mystère infini. Toutes les limites du corps, ses faiblesses, ses maladies, la mort, sont comme un appel à un abandon à celui qui est à la fois le créateur et le sauveur de l'univers. Toutes les limites du corps révèlent en creux un plein, une abondance de l'être ou de la vie du salut, dont la vie humaine est un chemin décisif. On parle d'une histoire sacrée. Sacrée parce qu'il y a un appel qui résonne à consentir par la limite, dans la limite, à une abondance qui nous est offerte, une abondance de vie. La vie qui anime les corps, donc, même si elle est fragile et vulnérable, elle atteste de manière incontournable une vie et un monde qui ne passeront pas. Le corps est le symbole par excellence, je m'exprimerai ainsi, il donne à penser à ce qui le dépasse. Mon corps me donne à penser à ceux qui m'ont conçu, à celui qui m'a posé dans l'être, pour parler de la création, à ce qui donne vie et permanence dans le temps et dans l'espace, puisque je reste créé. Donc le corps comme symbole donne à penser. Le corps comme symbole donne également de penser aux autres et à Dieu. Si j'ai un corps, c'est pour aimer, pour servir. de penser à la place des corps, des autres corps dans l'univers, jusqu'aux étoiles, aux galaxies, au sens d'une communion interpersonnelle, aux mots que librement chacun de nous peut dire par son corps et en son corps à Dieu qui ne voit pas, et aux autres. Et je cite ici saint Thomas d'Aquin qui dit « La spécificité de la condition de la nature humaine, c'est d'accéder aux réalités spirituelles et intelligibles par la corporéité et la sensibilité. » Donc le corps est le lieu, il n'est pas un concept, c'est un symbole qui donne à penser et qui donne de penser. C'est par lui que j'accède aux réalités spirituelles et intelligibles. Et je poursuis en confirmant l'objet de révélation. Le corps propre pour chacun de nous est le lieu d'une révélation. Entre autres, en particulier, c'est en mon corps, en notre corps, que nous sentons que nous sommes aimés et que nous pouvons aimer. C'est en mon corps que je fais amitié. C'est en mon corps que je fais confiance pour toujours, dans une promesse, dans des vœux. C'est en mon corps que je glorifie le Créateur, par le travail, par la danse et le tambour. Dire que le corps est le symbole par excellence, c'est dire combien il est lieu d'une présence à soi, aux autres et à Dieu. Il est le lieu réflexif par excellence. Et cette présence est connaissance de soi, des autres, de Dieu. Tous les modes de connaissance humaine passent par le corps. C'est vrai, et c'est important. Mais toutes les connaissances ne peuvent réduire ou mesurer la connaissance que le sujet a de lui-même en son corps. C'est ce que le père Thomas Philippe, fondateur avec Jean Vanier de l'Arche, exprimait, me semble-t-il, avec ce qu'il appelle la conscience, non pas cognitive, mais la connaissance du cœur, la conscience du cœur. Avant l'âge d'accession à la distinction du bien et du mal, l'âge de raison, 7 ou 8 ans, il dit que le petit enfant a déjà une conscience d'amour. Donc il connaît déjà Dieu, donc il connaît le bien, mais d'une autre manière que par la raison, par sa personnalité, par son corps simple. C'est ce qui justifie, entre autres, mais ne me poussez pas plus loin, parce que je ne veux pas entrer dans ce débat, c'est ce qui justifie une prière de guérison, par exemple, sur les premiers mois de la vie intra-utérine. Pas seulement parce qu'il y a des blessures qui ont été subies par l'embryon ou l'enfant qui grandit, ou bien, mais aussi parce que peut-être l'enfant peut déjà dire non à sa manière à cet âge-là, ou bien à 2 ou 3 ans, avant d'avoir une connaissance explicite de la distinction entre le bien et le mal. Donc, ça veut, tout ça pour dire que la connaissance que le sujet a de lui-même en son corps est à la racine. Le symbole qu'est le corps est une maison habitée dont le locataire ou le propriétaire peut dire « Je suis là ». C'est résumé un peu cavalièrement mon premier exposé il y a quelques mois, mais donc, je suis là, j'habite la maison de mon corps. Dire « ceci est mon corps », c'est dire une identité qui est d'accueil et d'ouverture, à moi-même bien sûr, mais pour me trouver, d'ouverture à l'identité d'autrui et à celle de Dieu, dont la quête, il faudrait le prouver encore plus longuement, mais dont la quête est inscrite charnellement dans tout être humain. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que dans le corps humain, et plus profondément, c'est ce qu'on avait explicité aussi par le mot sponsal, dans la différence sexuelle, il est dit quelque chose d'une communion à Dieu. C'est inscrit par Dieu. C'est pas naturel au sens biologique du terme, simplement. Dire ceci est mon corps, du point de vue éthique, c'est dire finalement que le corps est le lieu d'un acquiescement et d'une réponse à l'acte créateur de Dieu et sauveur. Il est la maison ordinaire de la personne dans laquelle le Christ et son esprit sont bien présents, car en cette chair, humaine s'apprivoise, se mêle, s'échange et s'unit amoureusement sa chair à la nôtre, la chair de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Je cite un commentaire de René Lafontaine sur l'Eucharistie qui dit ceci : ce qui fait la fragilité de l'homme en même temps que son ouverture au monde sont comme tels assumés et transfigurés par la communion charnelle et spirituelle au corps charnel et spirituel du Christ. Donc cette communion du Christ à nous ne peut pas ne pas nous transformer. Et on peut l'appliquer aussi à d'autres formes de prière, etc. Voilà, l'adoration. Voilà, pour manifester que le corps est non pas un concept que nous avons voulu manier comme ça à divers sauces pendant quelques semaines, mais qu'il est le symbole par excellence. Et donc, il donne à penser, il donne de penser, et je suppose que ça ne sera pas fini après un séminaire, que vous, jusqu'à la fin de votre vie, vous, votre propre corps vous donnera de penser et vous donnera à penser à Dieu, à vous-même et à autrui. Le corps est communion. Ces paroles, ceci est mon corps, ne sont pas isolées dans la tradition qui nous les transmet, bien sûr. Le Seigneur Jésus invite ses disciples à entrer dans un rapport particulier à son corps, car il poursuit son discours au testament, il l'explicite, nous le connaissons, je vais un peu plus vite, il ajoute pour ceux qui sont autour de lui ces paroles de communion, donc non pas ceci mon corps, mais prenez et mangez. Ainsi chacun est-il invité à accueillir le mystère du corps et à s'engager dans une confiance qui dépasse sa propre conscience du corps propre et du corps de Jésus qui parle. Parce qu'il s'agira de prendre le pain qui a été nommé corps du Christ. Jésus dit encore, comme pour appuyer la réalité de ce qu'il offre de lui-même et en signe de prophétie des souffrances prochaines, « Ceci est mon sang. » Il bénit la coupe pascale et invite encore chacun à entrer dans cette communion dont l'enjeu est bien bioéthique, hein, dont l'enjeu est la vie et la mort. Prenez et buvez. Il va plus loin puisqu'il nous offre le sacrement de sa présence au long des siècles en ordonnant à ses disciples de faire de même pour la multitude. Ainsi instaure-t-il un langage et un signe permanent de sa présence d'amour parmi les hommes. Ce qui est vrai pour ceux qui entouraient le Christ à la scène l'est aussi encore pour nous. Dans l'économie sacramentelle, le corps du Christ est rendu accessible aux sens et proche de nous. Nous pouvons le voir, le toucher, le manger. Et les espèces du pain et du vin appartiennent à l'ordinaire de la vie, et dont elles ont un lien privilégié avec la maintenance et la croissance du corps humain, avec le soin que nous avons à nous accorder. On ne peut pas passer une semaine sans boire ni manger, sans qu'il y ait un motif un peu proportionné quand même, même en carême, voilà. Avec le soin que nous accordons aux autres, particulièrement dans le signe de l'hospitalité. Toute nourriture partagée donne d'ailleurs une force physique à celui qui est alimenté, et cette force physique n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Elle est communion d'esprit et de cœur. Manger à la même table, être commensal, comme on dit, c'est poser un geste d'intimité mutuelle, d'amitié, de fraternité, de communion. Pour les apôtres, manger le corps du Christ, être à sa table, c'était entrer dans son intériorité, l'intériorité du Christ lui-même. Eh bien, dans l'économie sacramentelle, l'Eucharistie est un apprentissage régulier à accueillir et à trouver le Christ en nous. N'est-il pas venu habiter parmi nous et en nous ? Nous le faisons nôtre, ce corps. Nous devenons comme lui. Nous aimons comme lui. Notre corps pourrait devenir son corps au sens de la liturgie grecque qui dit que celui qui a communié est Théophoros. Il porte Dieu. Par sa liberté et dans un corps vivant. C'est mieux qu'un tabernacle, je vous ferai remarquer. Il qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Toute communion mutuelle d'amour passe par le corps. Rappelons que la tradition de l'Église désignait, par la même expression, Corpus Christi, le corps de Jésus né de la Vierge Marie, 1, le corps eucharistique, 2, et le corps ecclésial du Christ. Le même terme unifiait ces trois réalités. Parler de communion pour l'un, c'est en parler pour l'autre. L'Eucharistie, dès la scène, est un mystère de communion ecclésiale. Donc l'Eucharistie dit quelque chose du mystère du corps personnel de chacun, quand on peut communier, qu'on ne peut pas, quand on communie de telle ou telle manière, dans un camp de concentration ou dans la chapelle de Liété, c'est quand même bien différent. Voilà. La présence du Christ historique nous est offerte après sa Pâque d'une autre manière, plus intérieure qu'extérieure à première vue. Mais la mort du Christ est condition d'une nouvelle présence intérieure au corps de ses disciples. Sa vie doit couler en nous comme la sève de la vigne coule dans les sarments. Jean 15, 1. Le Christ passe ainsi dans le corps de ses disciples, il vit en eux, il habite en eux. Manger le corps, c'est trouver le Christ à l'intérieur de nous-mêmes et devenir lui en nos corps. Fils dans le Fils, héritier, enfant d'adoption. Je cite Galates 2, 20, ce n'est pas lui moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est en ce sens, je crois, que nous avons perçu, même si nous n'avons pas beaucoup développé, l'importance du viatique en fin de vie, de la communion pour la route. Cet acte, ce sacrement, manifeste dans l'histoire d'un baptisé la manière dont il vit sa Pâque en lien intime avec le Seigneur. Le Christ lui devient intérieur jusque dans son corps souffrant et qui va vers la mort. Le pain de vie est offert pour une vie qui ne passera pas. Car le pain, dit saint Jean, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Que ce soit pour le mourant ou pour chaque communiant, une vérité se fait chair. Le Christ vient faire sa demeure en eux. Son corps est uni à leur corps. Leur corps aussi devient son corps. Une communion profonde donc s'établit, peut s'établir. Dans chaque Eucharistie, pour celui qui communie, cette expérience se réalise et change le corps humain, c'est-à-dire c'est l'œuvre du salut. Elle change le corps humain, c'est-à-dire qu'elle le divinise. Nous sommes incorporés, dit saint Augustin, au corps du Christ, en le mangeant. Je cite, pour que vous reconnaissiez son langage, Duruel, il dit ceci, « Or la grâce de l'Esprit transforme les fidèles au corps du Christ sans les dépouiller de leur identité première. Elle les assume dans la personne du Christ au point que l'apôtre peut dire « Le Christ vit en moi ». Elle les assume dans l'être du Christ au point que l'apôtre peut dire « Vous êtes dans le Christ » 1 Corinthiens 1,30. Le chrétien ne perd cependant pas sa personnalité. Plus que jamais, il est le sujet de sa vie. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu » dit saint Paul en Galates 2,20. Les corps des fidèles sont des membres du Christ mais ne cessent pas d'être leur corps à eux. Vos corps sont des membres du Christ. Ce chemin d'intériorisation s'opère dans l'histoire de chacun. Donc nous percevons l'importance de l'Eucharistie pour notre vie ordinaire, pour le temps qui passe, pour les regards qui se posent sur les autres, embryons, adultes, mourants. Si le Christ est en nous, si nous devenons le corps du Christ, le regard posé sur les autres corps ne peut que changer. Ce regard de la foi nous indique les enjeux de nos actes, de nos rencontres, de nos paroles. La communion que nous pressentons possible devient réalité, puisque par l'Esprit, le même Christ fait sa demeure dans les corps personnels de nos frères et sœurs. La communion qui s'établit par et dans les corps humains n'est pas uniquement de l'ordre d'une ressemblance physique ou d'une reconnaissance de la transcendance de l'homme. L'homme est un être d'esprit, donc il peut être en communion avec un autre être d'esprit. Cette communion est une grâce. Elle est participation en nos corps à l'intériorité de la présence du Sauveur dans l'histoire, mais particulièrement dans le corps de chacun. La grâce d'unité ou de formation du corps ecclésiale, par exemple, ou de l'assemblée, c'est pas simplement parce que c'est une assemblée qui s'aime bien, qui se connaît bien, et qui est du même statut social. C'est une grâce qui est offerte à des gens qui viennent et qui ont communié ou qui veulent communier au même corps de Christ, qui sont mis ensemble, rassemblés. Et les participations en nos corps à l'intériorité de la présence du Sauveur dans l'histoire, dans le corps de chacun. C'est ainsi que les membres d'une assemblée eucharistique peuvent communier au même corps de Christ. Et cette communion leur fait entrer dans une vie qui les dépasse, à laquelle ils peuvent participer, construire, et qui passe par leur corps. C'est le Christ lui-même qui les établit dans ce même corps. Si elle est l'œuvre de l'Esprit de Jésus, c'est un corps nouveau qui naît par le Christ à travers le corps personnel des baptisés. Ce surplus, cette grâce, se lie aussi dans le corps de chacun, dans la joie, dans la communion, dans la paix profonde. Donc cette communion est quand même décisive pour nous chrétiens dans l'ordre aussi de la réflexion théologique, puisqu'elle atteste, elle est un gage, elle est une promesse d'une communion entre des saints. Elle est la parousie, c'est-à-dire la venue dans le temps de ce que nous vivrons en plénitude dans l'éternité à travers nos corps ressuscités. Elle est non pas à l'extérieur de l'Église et des personnes, mais dans le corps des personnes. Et nous comprenons mieux l'adage qui conclut cette partie sur la communion. L'Eucharistie fait l'Église, le corps eucharistique fait le corps ecclésial, et l'Église fait l'Eucharistie. De part et d'autre, c'est un même mystère, celui du corps du Christ. Ce sera plus bref, alors je passe au dernier point. Le corps est un lieu de vie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Cette parole du Christ explicite son désir de voir les malades guéris, les pécheurs pardonnés, les hommes et les femmes participer à son œuvre de salut. Le désir de Dieu par rapport à la vie de l'homme est ample. Le désir de Dieu concerne tous les hommes et toutes les époques. Cet aspect du désir d'amour de Dieu est une attestation aussi du caractère universel de la doctrine chrétienne, ou de ce que nous devrions réfléchir et désirer. Le regard de foi que nous posons sur les gestes et les paroles de la scène, prophétie de ce qui est accompli dans le mystère pascal, nous montre d'emblée cette concentration de vie exprimée dans le « ceci est mon corps ». En dehors de lui, pas de salut. En dehors de cet acte, il n'y a pas de salut. Pas d'amour ni de vie. Tout est en lui, par lui, pour lui. Cette doxologie eucharistique est décisive. Elle n'est pas dialectique, elle n'est pas pour fixer des limites au salut ni aux frontières de l'Église. Elle exprime le désir universel d'amour du Christ et dans lequel il nous fait entrer. En lui, tout homme est aimé, sauvé, respecté dans sa liberté jusqu'au bout. Oui, l'impact que cela a pour toutes les questions de suicide assisté, etc. Cette concentration des enjeux personnels historiques de l'humanité en cet instant est déconcertante, est bouleversante. Les mots sont insuffisants pour dire tout le mystère. Il fait appel aussi à un acte de foi. Donc il nous faut découvrir encore et toujours combien ces paroles sont la source de toute vie. Par exemple, je mets un lien entre les paroles évangéliques. Si Jésus dit « Ceci est mon corps », nous comprenons mieux comment il a la force de livrer son esprit, en Jean 19,30, d'expirer sur le monde. Et nous comprenons mieux aussi comment de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive et quelle est la portée de cette affirmation théologique. Le côté transpercé du corps de Christ à la croix est la source d'une vie pour les siècles et pas seulement pour Jean ou les premiers témoins au pied de la croix. Le corps du Christ est livré pour notre vie, pour que nous ayons la vie en plénitude. Jean 10, verset 10, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais, et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jean 6, 51. Le sens de nos vies, le sens de la vie en quelque sorte, jaillit non pas d'une idée, mais d'un corps singulier, le corps de Dieu dans l'histoire. J'ai souligné l'aspect de l'incarnation, je suis venu plus à l'aspect de rédemption sur la croix. Le Christ, en distinguant dans l'unité de sa parole et de son geste, en parlant, en distinguant sa personne du pain et du vin offert pour la multitude et en nous demandant de faire de même, le Christ, en soulignant l'identité de ce mystère entre lui et ce que désignait sa parole, nous indique des lieux de vie. Ce qu'Odile parlait du sens du sacré de la vie, je crois, ce matin. Le pain eucharistique comme lieu de vie, notre propre corps comme lieu de vie, le corps que nous formons fraternellement avec nos frères et sœurs. Nos regards donc sont appelés à s'exercer et à s'affiner pour découvrir cette beauté et cette vérité du réel. Je cite maintenant Grégoire de Nice dans un discours catéchétique sur l'Eucharistie qui a été repris d'ailleurs dans l'exhortation apostolique sur l'Eucharistie. Grégoire de Nice dit ceci: « Celui qui voit le pain voit en un certain sens le corps humain, puisque le pain absorbé par le corps devient le corps lui-même. De même, dans ce cas-ci, le corps qui a porté Dieu en lui était en un certain sens identique au pain, du moment qu'il absorbait le pain en nourriture, et que, comme on l'a dit, la nourriture se transforme pour se fondre dans la nature du corps. Mais alors, c'est la conclusion, mais ce corps, en raison de l'inhabitation du Logos de Dieu, a été transformé et élevé à la dignité divine. » Ce qui fonde nos observations, c'est donc l'incarnation de Dieu dans l'histoire. En prenant chair de notre chair, Dieu s'est uni à toute humanité. Ce fait historique, cette décision de la Trinité, cette volonté de salut, ne sont pas ponctuelles, se sont développées dans l'histoire du Christ et de son Église. Le corps en qui Dieu s'est incarné est source de grâce particulière pour tous les corps. Ainsi, les paroles de Jésus à la scène rassemble-t-elle toute la force de cette insertion de la divinité dans l'histoire humaine? Et ces paroles-là préfigurent tous les enfants de Dieu dispersés dans l'espace et le temps. C'est une parole de vie pour toute l'humanité, espace-temps compris. Parole de salut que celle prononcée par le Christ un jour du temps en face des apôtres, pour la multitude aussi jusqu'à la fin du monde. Parole de vérité sur ce que sont nos corps, lieux de vie, dans leur faiblesse, mais habité par Dieu lui-même. Grégoire de Nice poursuit, je le cite, « Tout comme un peu de levain, comme le dit l'apôtre, rend semblable à lui toute la pâte, de même le corps rendu immortel par Dieu, une fois introduit dans le nôtre, change et transforme celui-ci tout entier à sa ressemblance. » L'acte du Christ rassemble donc toute l'histoire du peuple élu et de l'humanité en l'apprenant en lui. Cet acte du Christ dit également ce que nous sommes en lui, nous sommes son corps. Les connivences personnelles entre l'embryon humain et sa mère, entre le malade et celui qui en prend soin, et tous ces gestes, cette définition du soin dont nous avons parlé, tout cela est enraciné dans le corps personnel du Christ. S'il y a un appel éthique dans de nombreuses situations que nous avons évoquées, c'est bien un appel à aimer, un appel à aimer comme le Christ a aimé, un appel à aimer le corps de ceux que le Christ rassemble en lui, même des non-chrétiens, puisqu'ils sont rassemblés par le Christ. Ces paroles du Christ inscrivent pour toujours l'Eucharistie dans le temps des hommes et dans l'économie sacramentelle. Quel que soit le moment où le Christ se donne à nous, jeunes ou vieux, en bonne santé ou malade, l'Eucharistie prépare le jour où nous le verrons face à face tel qu'il est. Elle est préparation et anticipation de l'alliance éternelle qui est vie pour toujours. Et c'est dans ce sens que, comprenez pourquoi je termine par là aussi, que l'Eucharistie est promesse d'immortalité qui donne son poids à tous les temps, tous les instants de l'histoire de l'homme, et qui permettent de célébrer ces moments. Ceci est mon corps, ces paroles enrichies et confirmées par celles qui suivent, ceci est mon sang, disent l'intensité de nos vies, qui non seulement sont dans la main de Dieu, mais dans son éternité. Tout amour est donc à l'image et à la ressemblance de celui qui parle ainsi, est un amour, comme on l'a cité ce matin dans la prière du Cantique des Cantiques, est un amour plus fort que la mort. Ainsi, dès ici-bas, une telle oblation du corps est don de vie, malgré toutes les forces de mort, malgré le temps qui passe, malgré le péché des hommes. Le corps, parabole de l'esprit, dit la personne appelée à être un vivant pour toujours. Je cite et je termine par Romains 8. Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'Esprit Saint est vie en raison de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Que tout aille bien.